La guerre des Gaules, écrit par Jules César et traduit par Désiré Nizard en 1865. Le document utilisé sera le Wikisource du 16 mars 2009. Livre 3, 56 avant Jésus-Christ. Attaque du camp de Galba dans les Alpes. 1. En partant pour l'Italie, César avait envoyé Servius Galba avec la 12e légion et une partie de la cavalerie chez les Nantuates, les Véragres et les Sédunes, dont le territoire s'étend depuis le pays des Allobroges, le lac Léman et le fleuve du Rhône jusqu'aux Hautes-Alpes. L'objet de la mission de Galba était d'ouvrir un chemin à travers ces montagnes, où les marchands ne pouvaient passer sans courir de grands dangers et payer des droits onéreux. César lui permit, s'il le jugeait nécessaire, de mettre sa légion en quartier d'hiver dans ce pays. Après quelques combats heureux pour lui et la prise de plusieurs forteresses, Galba reçut de toutes parts des députés et des otages, fit la paix, plaça deux cohortes en cantonnement chez les Nantuates, et lui-même, avec les autres cohortes de la Légion, prit son quartier d'hiver dans un bourg des Véragres nommé Octoduros. Ce bourg, situé dans un vallon peu ouvert, est de tous côtés environné de très hautes montagnes. Une rivière le traverse et le divise en deux parties. Galba laissa l'une aux Gaulois et l'autre, demeurée vide par leur retraite, dut servir de quartier d'hiver aux cohortes romaines. Il s'y fortifia d'un retranchement et d'un fossé. 2. Après plusieurs jours passés dans ce bourg et employés par Galba à faire venir des vivres, il apprit tout à coup de ses éclaireurs que tous les Gaulois avaient, pendant la nuit, évacué la partie du bourg qui leur avait été laissée, et que les montagnes qui dominent Octoduros étaient occupées par une multitude immense de Sédunes et de Véragres. Plusieurs motifs avaient suggéré aux Gaulois ce projet subit de renouveler la guerre et d'accabler notre légion. Ils savaient que cette légion n'était plus au complet, qu'on en avait retiré deux cohortes, que des détachements partiels servant d'escorte au convoi tenaient beaucoup de soldats absents, et ce corps ainsi réduit leur paraissait méprisable. Ils croyaient de plus que le désavantage de notre position, lorsqu'ils se précipiteraient des montagnes dans le vallon, en lançant leurs traits, ne permettrait pas à nos troupes de soutenir leur premier choc. À ces causes se joignait la douleur d'être séparés de leurs enfants, enlevés à titre d'otage, et la persuasion que les Romains cherchaient à s'emparer des Alpes, moins pour avoir un passage que pour s'y établir à jamais et les réunir à leur province qui en est voisine. 3. En recevant ces nouvelles, Galba, qui n'avait ni achevé ses retranchements pour l'hivernage, ni suffisamment pourvu aux subsistances, et que la soumission des Gaulois, suivie de la remise de leurs otages, faisait douter de la possibilité d'une attaque, se hâte d'assembler un conseil et de recueillir les avis. Dans ce danger, aussi grand que subi et inattendu, lorsque l'on voyait déjà presque toutes les hauteurs couvertes d'une multitude d'ennemis en armes, qu'on n'avait aucun secours à attendre, aucun moyen de s'assurer des vivres, puisque les chemins étaient interceptés, envisageant cette position presque désespérée, plusieurs, dans ce conseil, étaient d'avis d'abandonner les bagages et de se faire jour à travers les ennemis, afin de se sauver par où l'on était venu. Cependant, le plus grand nombre, réservant ce parti pour la dernière extrémité, résolut de tenter le sort des armes et de défendre le camp. 4. Peu d'instants s'étaient écoulés depuis cette résolution et on avait à peine eu le temps de faire les dispositions qu'elle exigeait, lorsque les ennemis accoururent de toutes parts à un signal donné et lancent sur notre camp des pierres et des pieux. Les nôtres, dont les forces étaient encore entières, opposèrent une courageuse résistance. Lancés du haut des retranchements, tous leurs traits portaient coup. Apercevaient-ils quelque point du camp trop vivement pressé faute de défenseurs? Ils couraient y porter secours. Mais les Gaulois avaient cet avantage qu'ils pouvaient remplacer par des troupes fraîches, celles qui se retiraient fatiguées par un long combat. Manœuvre que le petit nombre des nôtres leur interdisait. Ceux dont les forces étaient épuisées et les blessés eux-mêmes ne pouvaient quitter la place où ils se trouvaient pour reprendre haleine. 5. Il y avait déjà plus de 6 heures que le combat durait sans interruption, et non seulement les forces, mais les traits mêmes commençaient à manquer. L'attaque devenait plus pressante et la résistance plus faible. L'ennemi forçait déjà le retranchement et comblait le fossé. Nos affaires, enfin, étaient dans le plus grand péril lorsque P. Sextius Baculus, centurion du premier rang, le même que nous avons vu couvert de blessures à la bataille contre les Nerviens, et C. Volusenus, tribun militaire, homme également ferme dans le conseil et dans l'action, accourt auprès de Galba et lui représente qu'il n'y a plus de salut à attendre que d'une vigoureuse sortie, qu'il faut tenter cette dernière ressource. Les centurions sont convoqués et on ordonne aussitôt aux soldats de suspendre un moment le combat, de parer seulement les traits qu'on leur lance et de reprendre haleine. Puis, au signal donné, de se précipiter hors du camp et de n'espérer leur salut que de leur courage. 6. L'ordre s'exécute et nos soldats, s'élançant tout à coup hors du camp par toutes les portes, ne laissent pas aux ennemis le temps de juger de ce qui se passe ni de se rallier. Le combat change ainsi de face. Ceux qui se croyaient déjà maîtres du camp sont de tous côtés enveloppés et massacrés. Et, de plus de 30 000 hommes dont il était constant que se composait l'armée des barbares, plus du tiers fut tué. Le reste, épouvanté, prit la fuite et ne put même rester sur les hauteurs. Toutes les forces des ennemis ainsi dispersées et les armes enlevées, on rentra dans le camp et dans les retranchements. Après cette victoire, Galba ne voulut plus tenter le sort des combats. Mais se rappelant qu'il avait pris ses quartiers d'hiver dans un tout autre dessein, qu'avait traversé des circonstances imprévues, pressé d'ailleurs par le manque de grains et de vivres, il fit brûler le lendemain toutes les habitations du bourg et prit la route de la province. Aucun ennemi n'arrêtant ni ne retardant sa marche, il ramena la légion sans perte chez les Nantuates et de là chez les Allobroges où il hiverna. Soulèvement des Vénètes. 7. Après ces événements, César avait tout lieu de croire la Gaule pacifiée. Les Belges avaient été défaits, les Germains repoussés, les Sédunes vaincus dans les Alpes. Il partit donc au commencement de l'hiver pour l'Illyrie, dont il voulait visiter les nations et connaître le territoire, lorsque tout à coup la guerre se ralluma dans la Gaule. Voici quelle en fut la cause. Le jeune P. Crassus hivernait avec la 7e Légion, près de l'océan, chez les Andes. Comme il manquait de blé dans ce pays, il envoya des préfets et plusieurs tribuns militaires chez les peuples voisins pour demander des subsistances. T. Terracidius, entre autres, fut délégué chez les Essuvii. M. Trebius Gallus chez les Coriosolites. Q. Vellanius avec T. Silius chez les Vénètes. 8. Cette dernière nation est de beaucoup la plus puissante de toute cette côte maritime. Les Vénètes, en effet, ont un grand nombre de vaisseaux qui leur servent à communiquer avec la Bretagne. Ils surpassent les autres peuples dans l'art et dans la pratique de la navigation et, maîtres du peu de ports qui se trouvent sur cette orageuse et vaste mer, ils prélèvent des droits sur presque tous ceux qui naviguent dans ces parages. Les premiers, ils retinrent Silius et Vellanius, espérant par ce moyen forcer Crassus à leur rendre les otages qu'il lui avait donnés. Entraînés par la force d'un tel exemple, leurs voisins, avec cette prompte et soudaine résolution qui caractérise les Gaulois, retiennent dans les mêmes vues Trebius et Terracidius. S'étant envoyés des députés, ils conviennent entre eux, par l'organe de leurs principaux habitants, de ne rien faire que de concert et de courir le même sort. Ils sollicitent les autres États à se maintenir dans la liberté qu'ils ont reçue de leur père, plutôt que de subir le joug des Romains. Ces sentiments sont bientôt partagés par toute la côte maritime. Ils envoient alors en commun des députés à Crassus pour lui signifier qu'il eut à leur remettre leurs otages, s'il voulait que ses envoyés lui fussent rendus. César construit une flotte. Coalition des peuples de l'océan. 9. César, instruit de ces faits par Crassus, et se trouvant alors très éloigné, ordonne de construire des galères sur la Loire, qui se jette dans l'océan, de lever des rameurs dans la province, de rassembler des matelots et des pilotes. Ses ordres ayant été promptement exécutés, lui-même, dès que la saison le permet, se rend à l'armée. Les Vénètes et les autres États coalisés, apprenant l'arrivée de César et sentant de quel crime il s'était rendu coupable pour avoir retenu et jeté dans les fers des députés dont le nom chez toutes les nations fut toujours sacré et inviolable, se hâtèrent de faire des préparatifs proportionnés à la grandeur du péril et surtout d'équiper leurs vaisseaux. Ce qui leur inspirait le plus de confiance, c'était l'avantage des lieux. Ils savaient que les chemins de pied étaient interceptés par les marées et que la navigation serait difficile pour nous sur une mer inconnue et presque sans port. Ils espéraient, en outre, que, faute de vivres, notre armée ne pourrait séjourner longtemps chez eux. Dans le cas où leur attente serait trompée, ils comptaient toujours sur la supériorité de leurs forces navales. Les Romains manquaient de marine et ignoraient les rades, les ports et les îles des parages où ils feraient la guerre. La navigation était tout autre sur une mer fermée que sur une mer aussi vaste et aussi ouverte que l'est l'océan. Leur résolution étant prise, ils fortifient leur place et transportent les grains de la campagne dans les villes. Ils réunissent en Vénétie le plus de vaisseaux possible, persuadés que César y porterait d'abord la guerre. Ils s'associent pour la faire les Ossismes, les Lexovii, les Namnètes, les Ambiliates, les Morins, les Diablintes, et les Ménapes. Ils demandent des secours à la Bretagne, située vis-à-vis de leur côte. César répartit ses troupes dans la Gaule. 10. Les difficultés de cette guerre étaient telles que nous venons de les exposer, et cependant, plusieurs motifs commandaient à César de l'entreprendre. L'arrestation injurieuse de chevaliers romains, la révolte après la soumission, la défection après les otages livrés, la coalition de tant d'États, la crainte surtout que d'autres peuples, si les premiers rebelles demeuraient impunis, se remissent à suivre leur exemple. Sachant donc que presque tous les Gaulois aspiraient à un changement, que leur mobilité naturelle les poussait facilement à la guerre, et que, d'ailleurs, il est dans la nature de tous les hommes d'aimer la liberté et de haïr l'esclavage, il crut devoir, avant que d'autres États fussent entrés dans cette ligue, partager son armée et la distribuer sur plus de points. 11. Il envoie son lieutenant T. Labienus avec de la cavalerie chez les Trévires, peuple voisin du Rhin. Il le charge de visiter les Rèmes et autres Belges, de les maintenir dans le devoir et de s'opposer aux tentatives que pourraient faire, pour passer le fleuve, les vaisseaux des Germains, que l'on disait appelés par les Belges. Il ordonne à P. Crassus de se rendre en Aquitaine avec 12 cohortes légionnaires et un grand nombre de cavaliers pour empêcher ce pays d'envoyer des secours dans la Gaule et de si grandes nations de se réunir. Il fait partir son lieutenant Q. Titurius Sabinus avec 3 légions chez les Unelles, les Coriosolites et les Lexovii pour tenir ces peuples en respect. Il donne au jeune D. Brutus le commandement de la flotte et des vaisseaux gaulois qu'il avait fait venir de chez les Pictons, les Santons et autres pays pacifiés, et il lui enjoint de se rendre au plus tôt chez les Vénètes. Lui-même en prend le chemin avec les troupes de terre. Difficulté de la guerre contre les Vénètes. 12. Telle était la disposition de la plupart des places de l'ennemi, que, situées à l'extrémité de l'angle de terre et sur des promontoires, elles n'offraient accès ni aux gens de pied quand la mer était haute, ce qui arrive constamment 2 fois dans l'espace de 24 heures, ni aux vaisseaux que la mer, en se retirant, laisserait à sec sur le sable. Ce double obstacle rendait très difficile le siège de ces villes. Si après de pénibles travaux, on parvenait à contenir la mer par une digue et des môles et à s'élever jusqu'à la hauteur des murs, les assiégés, commençant à désespérer de leur fortune, rassemblaient leurs nombreux navires, dernières et faciles ressources, y transportaient tous leurs biens et se retiraient dans des villes voisines. Là, ils se défendaient de nouveau par les mêmes avantages de position. Cette manœuvre leur fut d'autant plus facile durant une grande partie de l'été que nos vaisseaux étaient retenus par les vents contraires et éprouvaient de grandes difficultés à naviguer sur une mer vaste, ouverte, sujette à de hautes marées et presque entièrement dépourvue de ports. Leur navire, leur tactique. 13. Les vaisseaux des ennemis étaient construits et armés de la manière suivante. La carène en est un peu plus plate que celle des nôtres, ce qui leur rend moins dangereux les bas-fonds et le reflux. Les proues sont très élevées, les poupes peuvent résister aux plus grandes vagues et aux tempêtes. Les navires sont tout entiers de chêne et peuvent supporter les chocs les plus violents. Les bancs, faits de poutres d'un pied d'épaisseur, sont attachés par des clous en fer de la grosseur d'un pouce. Les ancres sont retenues par des chaînes de fer au lieu de cordage. Des peaux molles et très amincies leur servent de voile, soit qu'ils manquent de lin ou qu'ils ne sachent pas l'employer, soit encore qu'ils regardent, ce qui est plus vraisemblable, nos voiles comme insuffisantes pour affronter les tempêtes violentes et les vents impétueux de l'océan. et pour diriger des vaisseaux aussi pesants. Dans l'abordage de ces navires avec les nôtres, ceux-ci ne pouvaient l'emporter que par l'agilité et la vive action des rames. Du reste, les vaisseaux des ennemis étaient bien plus en état de lutter sur ces mers orageuses contre la force des tempêtes. Les nôtres ne pouvaient les entamer avec leurs éperons, tant ils étaient solides. Leur hauteur les mettait à l'abri des traits, et par la même cause, ils redoutaient moins les écueils. Ajoutons que, lorsqu'ils sont surpris par un vent violent, ils soutiennent sans peine la tourmente et s'arrêtent sans crainte sur les bas-fonds, et qu'au moment du reflux, ils ne redoutent ni les rochers ni les brisants, circonstances qui étaient toutes à craindre pour nos vaisseaux. Victoire navale de Brutus. 14. Après avoir enlevé plusieurs places, César, sentant que toute la peine qu'il prenait était inutile et qu'il ne pouvait ni empêcher la retraite des ennemis en prenant leur ville, ni leur faire le moindre mal, est résolu d'attendre sa flotte. Dès qu'elle parut et qu'elle fut aperçue de l'ennemi, 220 de leurs vaisseaux environ, parfaitement équipés et armés, sortirent du port et vinrent se placer devant les nôtres. Brutus, le chef de la flotte, les tribuns militaires et les centurions qui commandaient chaque vaisseau n'étaient pas fixés sur ce qu'ils avaient à faire et sur la manière d'engager le combat. Ils savaient que l'éperon de nos galères était sans effet, que nos tours, à quelque hauteur qu'elles fussent portées, ne pouvaient atteindre même la poupe des vaisseaux des barbares, et qu'ainsi nos traits lancés d'en bas seraient une faible ressource, tandis que ceux des Gaulois nous accableraient. Une seule invention nous fut d'un grand secours. C'étaient des faux extrêmement tranchantes, emmanchées de longues perches, peu différentes de celles employées dans les sièges. Quand, au moyen de ces faux, les câbles qui attachent les vergues au mât étaient accrochés et tirés vers nous, on les rompait en faisant force de rame. Les câbles, une fois brisés, les vergues tombaient nécessairement, et cette chute réduisait aussitôt à l'impuissance les vaisseaux gaulois, dont toute la force était dans les voiles et les agrès. L'issue du combat ne dépendait plus que du courage, et en cela, nos soldats avaient aisément l'avantage, surtout dans une action qui se passait sous les yeux de César et de toute l'armée. Aucun trait de courage ne pouvait rester inaperçu, car toutes les collines et les hauteurs, d'où l'on voyait la mer, à peu de distance, étaient occupées par l'armée. Fin de la première partie du livre 3.